Vous écoutez, on lit pour vous.
Les séquelles des gauchers réprimés. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 août 2025 dans la presse. Guy Sirois, un lecteur, demande « Est-ce vrai que les gauchers sont plus intelligents ou habiles? Est-ce que les gauchers qui ont été forcés à écrire de la main droite dans les années 1960 ont des séquelles? » La question est d'actualité puisque le 13 août 2025 était la Journée internationale des gauchers, lancée en 1976 par un vétéran américain, Dean R. Campbell. L'intelligence supérieure des gauchers est un mythe, mais il y aurait plus de génie et une proportion plus grande de certains problèmes neurologiques chez les gauchers selon des études sur le sujet. Pour les gauchers qu'on a obligés à écrire de la main droite, aucune étude n'a mesuré les séquelles que cela a pu causer. Mais, selon une psychologue allemande qui a écrit un livre sur la question, ils auraient plus souvent des problèmes de mémoire, d'orthographe, de concentration et d'estime de soi. J'ai traité depuis 3 décennies des milliers de gauchers qu'on a obligés à écrire de la main droite, dit Barbara Sattler, auteure du livre « The Converted Left-Hander » qui vient d'être publié en anglais 30 ans après sa publication en allemand. En Allemagne, on a commencé à remettre en question cette pratique dans les années 1980. Mais ce n'est que depuis le nouveau millénaire que c'est officiellement découragé dans toutes les régions. Madame Sattler, dont le centre d'aide aux gauchers est à Munich, a aussi mis sur pied des formations pour aider les ergothérapeutes. En vieillissant, le gaucher, qu'il ait ou non été forcé à écrire de la main droite, a des limitations cognitives et physiques un peu différentes de celles des droitiers, illustre-t-elle. Il faut faire des adaptations différentes du domicile, par exemple, pour les gauchers. Et les gauchers qu'on a forcés à écrire de la main droite ont plus de limitations de motricité fine et d'équilibre. Madame Sattler a donné sa formation de 100 heures à près d'un millier de soignants. Autisme et surdité. Pour ce qui est des différences neurocognitives entre gauchers et droitiers, la chercheuse grecque Marietta Papadatou-Pastou est parmi ceux qui ont le plus travaillé sur le sujet. La neuropsychologue de l'Université d'Athènes a notamment comparé les gauchers et les droitiers pour ce qui est de l'intelligence, mais aussi de la prévalence de l'autisme, de la surdité, du déficit d'attention, TDAH, et de la sévérité du syndrome de stress post-traumatique, entre autres. Dans chaque cas, il n'y avait pas d'écart entre gauchers et droitiers. Il n'y a pas de différence significative de quotient intellectuel entre droitier et gaucher, mais il semble y avoir plus de variabilité chez les gauchers, a-t-elle conclu. Cette variabilité plus grande sur le plan neurologique reste cependant à confirmer. Barbara Sattler n'a pas étudié les distinctions entre gaucher et droitier, mais elle estime que les différences neurologiques doivent nécessairement avoir des effets. Chez les droitiers, 96% des gens utilisent la moitié gauche de leur cerveau pour parler, dit Madame Sattler. Chez les gauchers, cette proportion est de 72%. On comprend mal les impacts neurologiques de cette différence, mais il y en a certainement. Certaines données semblent montrer qu'il y a une prévalence plus grande de troubles du langage, par exemple la dyslexie. Mais là encore, ça reste à confirmer avec d'autres études. Il n'y a pas beaucoup de financement pour les études sur ces questions, déplore Marietta Papadatou-Pastou. Par exemple, il n'y a pas de définition officielle des termes « droitier » et « gaucher ». Certains chercheurs se basent sur les déclarations des patients, d'autres sur la main avec laquelle ils écrivent et d'autres encore sur la force relative des deux mains. N'empêche, la neuropsychologue grecque a réussi à étudier la préférence des mères pour bercer leur bébé, généralement la main gauche, le lien entre les pieds et les mains chez les gauchers. ils ont le pied gauche plus fort, et la situation chez les chats et les chiens. Environ le quart sont ambidextres et les droitiers ne sont pas plus nombreux que les gauchers. En savoir plus. 9,8%. Proportion de gauchers au Canada en 1994. Source Behavior Genetics. 2%. Proportion de gauchers aux États-Unis en 1900. Source Laterality. 1,2 fois. Proportion des hommes qui sont gauchers par rapport aux femmes. Source Psychological Bulletin. C'était Les séquelles des gauchers réprimés, un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 août 2025 dans La Presse.
Du solaire sous les lignes électriques. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 août 2025 dans La Presse. Un lecteur, Richard Lavoie, demande « Pourquoi on n'installe pas des panneaux solaires sous les lignes électriques? » Un premier projet du genre vient justement d'être approuvé au Maryland. « Nous venons d'avoir le financement pour un projet pilote. » explique David Broschke, directeur de Earth Sky, une ONG vouée aux énergies renouvelables dans cet État. On va installer 3 chariots avec 4 panneaux solaires chacun, à différents endroits en dessous et près de lignes électriques à haute tension. Dans un an, on devrait avoir les résultats. Le projet pilote vise à élucider 2 points. Si les champs magnétiques des lignes à haute tension affectent la production d'énergie solaire et si la présence des panneaux solaires influe sur l'entretien des lignes électriques. Si le projet pilote fonctionne, dit David Bosch, ça éviterait de consacrer des terres agricoles à des parcs solaires ou alors de couper des forêts pour en installer. L'énergie solaire sera acheminée vers d'autres lignes électriques. On ne peut pas envoyer l'électricité directement dans les lignes à haute tension. Il faut des postes de transformation, souligne M. Brosh. Donc, ça limite ce type d'aménagement aux zones voisines de villes et de villages. Un projet pilote supplémentaire pourrait viser à évaluer la possibilité d'avoir une 2e ligne utilisant les mêmes pylônes avec une tension plus basse. Le risque d'interférence entre les lignes à haute tension et les panneaux solaires est bien réel. Sur son site Web, Hydro-Québec a une section sur ce qui est permis et interdit dans les emprises de ces lignes électriques à haute tension. Et un ingénieur québécois, Éric Brault, de BBA Consultant à Mont-Saint-Hilaire, a publié en 2019 une note technique détaillant comment ces interférences peuvent se produire, précisant notamment qu'une structure métallique située à moins de 50 mètres d'une ligne à haute tension peut causer de telles interférences. Pascal Poinlane, relationniste d'Hydro-Québec, a précisé que présentement, aucun projet solaire n'est prévu à court ou moyen terme dans l'emprise des lignes de transport d'électricité. David Brosch a eu l'idée de construire des parcs électriques solaires sous les lignes à haute tension il y a 15 ans, après avoir discuté, dans un congrès sur les énergies renouvelables, avec un ingénieur militaire. Monsieur Brosch se souvient, il me disait qu'on avait des milles et des milles de corridors réservés aux États-Unis près des autoroutes, où il n'y avait pas de végétation, qui seraient idéaux pour des panneaux solaires. J'ai pensé que c'était aussi le cas des corridors réservés aux lignes électriques. Cette conversation avec l'ingénieur militaire a mené à la seule évaluation du potentiel de génération d'électricité de cette approche par John Farrell de l'Institute for Local Self-Reliance, ILSR, à Minneapolis. Après avoir discuté avec David Brosh, M. Farrell a publié en 2011 un essai sur le sujet. Il y concluait que si des panneaux solaires étaient installés partout sous les lignes électriques avec corridors réservés, les États-Unis pourraient générer 720 TWh, TWh par année. Les États-Unis génèrent actuellement 220 TWh d'énergie solaire et 4200 en électricité au total. Installer des panneaux solaires sous les lignes électriques pourrait être fait sans nuire à leur entretien, selon M. Farrell. Le seul problème qu'il entrevoit est la chute sur les panneaux solaires de verglas accumulés sur les lignes électriques dans les régions nordiques. Conservatisme. Je pense que la principale raison pour laquelle cette idée n'a jamais été testée est le conservatisme des distributeurs d'électricité, dit M. Farrell. C'est la même chose avec les panneaux solaires dans les corridors réservés le long des autoroutes. Les ingénieurs qui sont responsables du réseau routier ont peur de ce qui pourrait arriver si une voiture sortait de la route et heurtait un panneau solaire, ou alors veulent préserver la possibilité d'un agrandissement de l'autoroute. En 2020, des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont estimé qu'installer des panneaux solaires dans les corridors réservés voisins des autoroutes américaines permettrait de générer 36 TWh par année. La production mondiale d'énergie solaire est sur le point de dépasser l'énergie nucléaire cet été, selon un récent article de Reuters. En savoir plus. 1866 gigawatts. Capacité de production d'énergie solaire dans le monde en 2024. Elle était de 100 gigawatts en 2010. Source Reuters. 5 gigawatts. Capacité de production d'énergie solaire au Canada en 2024. Source Association canadienne de l'énergie renouvelable. C'était du solaire sous les lignes électriques. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
L'omerta sur les gars hétéros qui couchent avec des hommes. Une chronique de Samuel Larochelle parue le 3 septembre 2025 dans le magazine Fugue. Les gars straight qui couchent avec des hommes ne sont pas un phénomène nouveau, mais ils me font aujourd'hui l'effet d'une montre électronique oubliée pendant le tournage d'un film d'époque. Un immense anachronisme. Se pourrait-il qu'ils ressentent encore le besoin de se cacher parce que la société est plus homophobe qu'elle ne le prétend? Évidemment, il n'existe aucune statistique officielle sur le sujet. Lors du dernier recensement pan-canadien, aucun monsieur n'a inscrit qu'il aimait les pénis en secret, même s'il s'identifiait hétéro. Cela dit, demandez à tous les gays qui utilisent les applications de rencontre ou qui fréquentent les lieux de cruising, et vous aurez droit à une suite interminable d'expériences sur leurs interactions avec ces spécimens. L'idée d'écrire sur le sujet m'est venue au cœur du golfe du Saint-Laurent. À la fin juin, lors d'un séjour aux îles de la Madeleine, un hétéro m'a écrit sur Grindr pour me proposer une rencontre de nature sexuelle. Comme il semblait magnifique, je lui ai répondu. Il s'est décrit comme un hétéro de Québec en visite aux îles avec une amoureuse qui ignorait tout de ses escapades avec les hommes. Comme il m'a vite exaspéré, je l'ai bloqué avant que nous ayons le temps de nous rencontrer. Deux semaines plus tard, alors que j'étais en transition à Fredericton, il est revenu à la charge avec un nouveau profil et de fausses photos. Quand je l'ai questionné sur l'immense distance qui nous séparait, il a répondu qu'il était de retour à Québec, qu'on s'était parlé récemment, qu'il avait repéré mon profil à travers le Nouveau-Brunswick et qu'il avait utilisé des photos qui, prétendait-il, appartenaient au domaine public. Bref, il avait menti sur son identité pour me parler. Même si j'apprécie la personne que je suis, je ne considère pas mériter tous ses efforts. Et je me questionne sur les mensonges qu'il enfile pour cacher un pan de sa sexualité. Mes amis queer des îles et du Nouveau-Brunswick m'ont confié que les hétéros qui couchent avec des gars sont fréquents chez eux. Ayant vécu en Abitibi, au Saguenay et à Montréal, j'ai observé la même chose à de multiples reprises. En réalité, le phénomène est répandu à travers le Québec, comme ailleurs dans le monde. Mais pourquoi toutes ces cacheteries? L'homosexualité n'est-elle pas acceptée dans la belle province depuis des années? Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que ces hommes ne sont pas nécessairement gays, mais sexuellement curieux, bisexuels non assumés ou hétéros non comblés. La plupart d'entre eux ne s'identifient pas homosexuels. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé l'acronyme HARSH, H-A-R-S-A-H, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, afin de bien les encadrer dans le milieu de la santé et des services sociaux, au lieu de les laisser tomber entre les cracks, si on se bornait à résumer leurs pratiques à celles des homosexuels. D'autres HARSH sont simplement des hétéros célibataires ou dans une relation qui ne les comble pas sexuellement, fréquence des rapports trop bas à leur goût, absence de certaines pratiques, comme la fellation, intensité physique différente, etc. Dans leur vision des choses, ils ont besoin d'un corps, d'une bouche, d'un anus, d'un simple trou pour se vider. Ce qui, croient-ils, ne fait pas d'eux des gays. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux s'assurent de ne pas embrasser leur partenaire masculin et d'éviter toute forme de tendresse associée à des rapports plus intimes. En lisant le dernier paragraphe, vous avez peut-être soulevé un sourcil. En effet, s'ils aiment pénétrer un homme ou être sucés par une bouche appartenant à un homme, il est possible qu'ils soient aussi attirés par les hommes et qu'ils soient bisexuels ou pansexuels. Pourquoi ne pas l'assumer? Eh bien, parce que la bisexualité croule encore sous les préjugés crasses. On prétend que les hommes bi sont des gays non assumés ou qu'ils sont des dépravés du sexe qui veulent coucher avec tout ce qui respire. Face à de tels clichés, on comprend pourquoi de nombreux bi hésitent à s'afficher. Parmi les HARSH et les bisexuels dans le placard, nombre d'entre eux cachent leur attirance pour la gente masculine de peur qu'on remette en question leur masculinité et leur virilité. Comme s'il était impossible de réellement apprécier l'homme et la femme. Comme si leur attirance pour un corps d'homme effaçait automatiquement leur attrait pour le corps féminin. Comme si avoir du sexe avec un homme sous-entendait de prendre le rôle traditionnel de la femme. Donc, d'être soi-même féminin et, selon la perspective sexiste qui se cache derrière l'homophobie, plus faible. Résultat, ces hommes se cachent dans les buissons, derrière des profils sans photos ou de fausses identités. Ils ne parlent jamais de leurs préférences nuancées. Ils entretiennent une forme d'omerta autour de leur sexualité. Au point où même les hétérosexuels qui aimeraient explorer la sexualité prostatique se taisent, craignant que l'envie que leur amant stimule leur prostate avec un objet ou des doigts soit associée à la sexualité anale et à l'homosexualité, comme un cercle vicieux qui n'en finit plus de courir après sa queue. C'était l'omerta sur les gars hétéros qui couchent avec des hommes, Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 3 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Dans les festivals, des verres jetés, collectionnés, mais pas toujours réutilisés. Un texte de Sarah Collardi, paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir. À Montréal et ailleurs dans le monde, de plus en plus de festivals ont adopté les verres réutilisables pour remplacer ceux à usage unique. Bien que cette option soit présentée comme éco-responsable, les organisateurs d'événements doivent trouver des solutions face au comportement des festivaliers qui semblent ne pas avoir encore intégré le principe des verres réutilisables qu'ils jettent ou collectionnent. Des événements comme Picnic Electronic et Igloo Fest, ou encore le Village au pied du courant, VPC, ont tous opté pour cette solution. Les trois sont produits par l'entreprise Multicolore. Picnic a été le premier festival à grande échelle à implanter les verres consignés en 2013, affirme Nicolas Cournoyer, vice-président aux affaires publiques de Multicolore et cofondateur de l'événement musical. Selon des données fournies par l'entreprise montréalaise de la scène musicale, les verres réutilisables ont permis d'éviter la production de 14 993 kilos de plastique à usage unique entre 2013 et 2024 au Picnic Electronic. Le principe est simple, chaque verre est consigné pour 2 $. La consigne, c'est la barrière psychologique qui dit « je ne veux pas perdre de l'argent », précise M. Cournoyer. Pourtant, en parcourant quelques festivals, Le Devoir a trouvé de nombreuses poubelles contenant des verres réutilisables. Malgré les efforts mis en place, les stations de tri et les stations de consigne, il reste des défis à relever. Les gens doivent changer leurs habitudes, parce que même si les verres sont consignés, certains festivaliers ont encore le réflexe de les mettre au recyclage ou même à la poubelle, déplore le cofondateur de Picnic. Il admet qu'il y a encore du travail de sensibilisation à faire. Pour limiter les pertes, des équipes de nettoyage récupèrent les verres, laissés dans les poubelles ou les bacs de recyclage lors des événements de multicolores, ce qui permet de maintenir un taux de retour maximal et de préserver la logique de réutilisation. Personnaliser le verre? Difficile de trouver un foyer montréalais sans au moins un gobelet réutilisable dans ses armoires. Beaucoup de gens les conservent par attachement au festival ou pour les réutiliser à la maison. À partir du moment où le verre est personnalisé, puis que les gens ont un fort sentiment d'appartenance, il y en a qui les gardent, observe Nicolas Cournoyer, qui est confiant que les gens les réutilisent chez eux. Pourtant, l'objectif initial du verre réutilisable est basé sur le fait que les gens doivent les rapporter, afin que les festivals puissent les utiliser un maximum de fois et ne pas produire des verres en plastique à tout va. Depuis l'introduction de cette option éco-responsable au Picnic Electronic en 2013, le taux de retour moyen s'élève à 71%. Un taux de retour correct, mais qui pourrait largement être amélioré en dépersonnalisant les verres, selon Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Au VPC, la proportion atteint 77% pour la même période. Du côté d'Igloo Fest, le chiffre est un peu plus bas, environ 67% entre 2014 et 2025. Le taux de retour est un peu moins grand à Igloo Fest, car les gens ont tendance à plus les collectionner, reconnaît Nicolas Cournoyer. Dans un festival de musique, tout le monde veut un petit souvenir, reconnaît Karel Ménard. À 2 $ le souvenir, c'est sûr que les gens vont les garder, soutient-il. Toutefois, il ne pense pas qu'augmenter la consigne serait une solution. Pour lui, la meilleure façon de faire, c'est justement d'avoir des éco-copes qui ne sont pas aux couleurs ou à l'effigie des festivals. De la publicité.
L'expert en gestion écologique des déchets fait valoir que personnaliser les verres, c'est aussi de la pub, à un certain point, pour le festival. Si, vraiment, l'esprit du festival était plus environnemental que marketing, c'est sûr que le taux de retour serait beaucoup plus élevé, affirme-t-il. Il reconnaît toutefois que les gens les réutilisent sûrement chez eux. Pour Nicolas Cournoyer, ce n'est pas une mauvaise chose. On veut que les gens les collectionnent aussi. C'est de la promo. Quand les gens les réutilisent dans un parc ou dans une fête de famille, c'est un objet promotionnel, reconnaît-il. Quentin Crousselet, fondateur de Copco, le fournisseur des verres réutilisables pour les événements de multicolores, déclare que le côté personnalisé des verres fait en sorte, entre autres, que l'entreprise reste viable. Tu peux pas l'enlever de ce business, ça fait partie du jeu. Après, c'est l'utilisation que chacun en fait, et ça, on n'a pas le contrôle, soutient-il. Même réflexe, contenant différent. En 2024, Multicolore a lancé un projet pilote de contenants alimentaires réutilisables au VPC. Face au succès, le concept a été déployé au pique-nique électronique dès le mois d'août de la même année. Depuis, ces contenants sont devenus une mesure permanente dans les deux événements. En 2024, le taux de retour des contenants alimentaires au VPC s'élevait à 99 %. Les gens rapportent déjà leurs verres, donc c'est le même réflexe, mais pour la nourriture, souligne Nicolas Cournoyer. Grâce à cette initiative, il mentionne que 1154 kilos de plastique à usage unique ont été économisés en 2024 au VPC. Quentin Crousselet précise que leur taux de retour est plus élevé car les gens ne sont pas tentés de rapporter chez eux un contenant alimentaire déjà encombrant pendant le festival. Copco et Multicolore n'ont donc pas d'intérêt à personnaliser le contenant. Ce qui est atteignable dans le verre ne le sera jamais dans le plat et vice-versa, affirme-t-il. Cette initiative a en outre permis d'améliorer la récupération des restes alimentaires pour le compostage. Auparavant, les contenants jetables, souvent pleins de restes, finissaient à la poubelle. Désormais, les festivaliers les rapportent aux stations de consigne où des employés veillent à ce que les déchets organiques soient compostés. C'était « Dans les festivals, des verres jetés, collectionnés mais pas toujours réutilisés », un texte de Sarah Collardi paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir.